Bon, je crois qu'on est en train de vivre un moment que les marchés vont peut-être regretter pendant des années. Parce que hier, on a quand même une société qui n'a pas vraiment le droit, légalement, par les règles de base, d'entrer dans le S&P 500 avant 12 mois, qui pesait quand même sur le S&P 500. Une société qui perd de l'argent vaut maintenant plus qu'Amazon, ou presque. Et pendant ce temps-là, à 15 000 km de là, deux pays viennent de signer un accord de paix qu'aucun des deux n'a interprété de la même façon, visiblement. Mais personne ne s'en inquiète, tout le monde achète. Le SOX est au plus haut de tous les temps, il y a des gaps à l'ouverture dans tous les sens. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un marché qui a décidé collectivement de ne plus se poser de questions puisque tout va bien. Et puis on va aussi se demander, et qu'est-ce qui a vraiment changé entre l'Iran d'avant et l'Iran qui va bruncher avec Trump le 4 juillet à la Maison Blanche? Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 juin et je suis Thomas Veillet.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, programme chargé, une fausse paix qui rend tout le monde euphorique, une fusée à 2500 milliards de dollars qui n'a pas le droit d'être là où elle est et un marché obligataire qui, lui, n'achète rien de tout ça. Donc, le monde est sauvé, ça on l'a bien compris, Trump l'a dit, hein. L'Iran et les États-Unis ont un accord, signature vendredi à Genève dans la Suisse neutre, avec les petits drapeaux rouges et blancs et tout le folklore diplomatique habituel, avec des vitrines blindées, à cause de l'ego de Macron, mais l'accord sera quand même signé vendredi. Le détroit d'Hormuz va rouvrir et on ne saura plus quoi faire de tout ce pétrole qui va couler à flot tel la fontaine de Trévise, et la bourse a fait BAM! Le Nasdaq, plus 3%, meilleure séance depuis fin mars. Le S&P 500, plus 1,65%. Le Dow Jones, au plus haut de tous les temps. Je ne sais pas si vous voyez où est le problème. Alors moi, je vais quand même vous le dire, hein, parce que l'accord n'existe pas. Enfin, pas sur le papier, en tous les cas. Aucun texte n'a été publié. On ne sait même pas ce qu'ils vont signer, de toute manière. Et quand vous regardez ce que disent les deux camps, chacun de leur côté, c'est assez marrant, parce que l'Iran dit « on va faire payer un péage sur le détroit d'Hormuz ». Les États-Unis disent « non, 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 pas du tout, ce sera gratuit pour toujours, forever and ever ». Et le sénateur Lindsey Graham, qui est un pote de Trump, a dit littéralement, presque mot pour mot, « la version de l'Iran, quand je la lis, c'est affreux, mais notre version à nous, ça a du sens, mais attendons de voir ce qui en sort vraiment vendredi ». Donc un sénateur du parti au pouvoir lui-même dit « attendons de voir ce que c'est vraiment ». Ça, c'est ce qu'on appelle un accord de principe, sans accord et sans principe. Et pendant que Trump nous explique que le pétrole va couler, donc, comme la fontaine de Trévise, comme je vous le disais, les Européens, eux qui doivent théoriquement envoyer leur propre navire pour déminer la zone du détroit d'Hormuz, disent « attendez, ça va prendre des semaines, voire un bon mois, avant que ça redevienne normal, et il faut qu'on ait un vrai accord, un vrai mandat international ». Et puis, il y a BIMCO. Alors BIMCO, vous ne connaissez peut-être pas, c'est le grand syndicat mondial des armateurs, les gens qui possèdent carrément les bateaux qui sont coincés dans le détroit d'Hormuz, et dans leur communiqué de lundi soir, grosso modo, je vous le résume, ils ont dit « zone à très très haut risque, n'y envoyez pas vos bateaux ». Donc d'un côté, on a le président des États-Unis qui dit « tout sera réglé vendredi, make America great again », et de l'autre côté, les gens qui possèdent les bateaux qui disent « moi je mets pas les pieds là-bas ». Et la bourse, à votre avis, elle a choisi de croire qui? À votre avis, vous pensez quoi? Eh oui, exactement, elle a choisi de croire celui qui fait monter les indices. Alors, je vais vous dire un truc que j'ai appris ces dernières années et que personne ne dit jamais à la télé. La bourse n'analyse pas les faits, la bourse choisit de croire des histoires. Ou elle croit pas. Hier, elle a choisi la plus belle des histoires qu'on pouvait lui raconter. La guerre est finie, le pétrole va couler à flot, l'inflation va reculer, la Fed va pouvoir baisser les taux et tout le monde va devenir riche, voire très très riche. C'est propre, c'est simple, ça ne demande aucun effort intellectuel. Et puis, alors, regardez ce que ça donne concrètement. Hein. Meta, plus 4,6%, Amazon, plus 3,2%, Alphabet, Microsoft, plus 2% chacun. Et le SOX, l'indice des semi-conducteurs qui termine la séance au plus haut de tous les temps avec des gaps comme ça à l'ouverture. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content, tout le monde, il est gentil. Trump est formidable. Sauf que, pendant ce temps-là, à quelques kilomètres de là, dans une autre salle de marché, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette belle histoire. Et c'est là que ça devient quand même un tout petit peu intéressant. Vous savez ce qu'on dit dans le métier? On dit que le marché obligataire, c'est un petit peu les gens les plus intelligents du marché. Les actions, c'est la fête au dernier étage, avec les confettis, la musique trop forte, le champagne qui coule dans tous les sens, qui dégouline le long des murs. Les obligations, bah, c'est le voisin du rez-de-chaussée qui a déjà vécu 3 ou 4 fêtes, qui à chaque fois ont fini avec les pompiers, donc ils ont un peu l'habitude, ils ont moins envie de rire. Et hier, pendant que les actions dansaient littéralement sur la table, le 10 ans américain, il a à peine bougé. 4,45%. Le 30 ans flirte toujours avec les 5%. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si les obligations croyaient vraiment que l'inflation était morte, que la guerre était finie, que tout allait bien, les taux auraient dû baisser. Et en l'occurrence, ils n'ont même pas bougé. Alors, je ne veux pas être négatif, mais attention quand même, parce que ce n'est pas tout logique, mais ça ne fonctionne pas tout en même temps. Le marché obligataire, lui, il sait un truc que personne ne sait, ou alors il se doute que cet accord n'est pas si simple. Le pétrole, qui passe de 114$ le 1er mai à 83$ hier matin, ça ne fait pas disparaître par magie l'inflation qu'on a accumulée ces derniers temps. Les coûts de fret, les marges qui ont déjà été écrasées en mars, en avril, en mai, les contrats qui ont été signés auparavant, tout ça va atterrir inévitablement dans les résultats du deuxième trimestre, donc dans l'inflation également. Et il y a un détail que personne ne regarde et qui devrait pourtant faire un tout petit peu peur, c'est les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis qui sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1983. Aujourd'hui, elles sont à 340 millions de barils, alors qu'en février, il y en avait plus de 415 millions de barils. Alors oui, bien sûr, le détroit est ouvert, donc tout ça va se remplir par capillarité, mais l'Amérique a littéralement brûlé son coussin de sécurité pour amortir la hausse des prix pendant la guerre. Et ça ne se reconstitue pas avec un tweet disant « Les Iraniens sont nos amis ». Bon, maintenant on va s'accrocher parce qu'il se passe encore 2 choses énormes cette semaine et que personne n'en parle parce que tout le monde est fixé sur ce qui va se passer à Genève. Première chose, ce soir et demain, Kevin Warsh est de sortie, le nouveau patron de la Fed tient sa toute première réunion de politique monétaire. Les taux vont rester inchangés, c'est quasiment certain, c'est la 4e pause d'affilée. Mais son discours de mercredi soir, demain soir, ça, c'est un peu l'étape de la loi. Les marchés d'options price déjà une variation de 70 points de base sur le S&P 500 dans un sens ou dans l'autre. 70 points de base pour une réunion où officiellement il ne se passe rien, ça fait un petit peu beaucoup. Vous voyez quand même un peu le décalage? Ça veut quand même dire qu'on s'attend à pas mal de volatilité, donc à pas mal de surprises, mais c'est surtout parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il a l'intention de dire ou de faire. Et puis alors, deuxième chose, celle que tout le monde a complètement zappé, c'est la Banque du Japon qui rend sa décision aujourd'hui même. Pendant que tout le monde célèbre la paix au Moyen-Orient, Tokyo s'apprête peut-être à monter ses taux à 1%. Ce sera donc le plus haut niveau depuis 1995. Et ça ne veut pas rien dire. Le yen flirte dangereusement avec les 160 contre le dollar, une zone qui historiquement a déclenché plusieurs fois des achats et des interventions de la Banque centrale japonaise, à coût de centaines de milliards, bien sûr. Et la réunion se tient sans le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, qui est hospitalisé pour une infection. Donc on a un yen sous tension, une inflation qui remonte et un comité qui décide sans son chef. Alors si la BOJ surprend avec un ton plus agressif que prévu, cette belle euphorie mondiale pourrait prendre un sacré coup de froid avant. Petite parenthèse, parce qu'il faut quand même que je vous en parle, même si, soyons honnêtes, le marché s'en fiche complètement aujourd'hui. La Chine a publié aussi ses chiffres du mois de mai. Vente au détail en baisse pour la première fois depuis décembre 2022. Investissement immobilier moins 16% sur 5 mois. Investissement manufacturier en contraction pour la première fois depuis 2020. C'est ce qu'on appelle une économie en K. Le haut du K, l'export, l'industrie, l'IA, ça monte. Le bas du K, l'immobilier, la consommation des ménages, ça s'effondre en silence. Mais bon, aujourd'hui, pour être honnête, c'est miracle Trump partout, la Chine attendra son tour pour qu'on s'occupe d'elle. Bon, comme on est obligé d'en parler, on va aussi en parler, parce qu'il faut en parler tous les jours, c'est le truc à la mode en ce moment. SpaceX, plus 19,6% hier, deuxième jour de cotation, valorisation 2500 milliards de dollars. C'est à peu près la taille d'Amazon, juste derrière Alphabet, Apple, Microsoft et Nvidia. Et SpaceX perd toujours de l'argent. Donc je le rappelle, juste pour pas qu'on l'oublie. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Musk a tout compris comment fonctionne le marché, et donc il a balancé sur X que la société pourrait faire 1000 milliards de revenus en 2030. C'est 3 fois la prévision de Morgan Stanley, qui était pourtant le lead de l'IPO. Ça voudrait donc dire une croissance de plus de 100% par an pendant 4 ans d'affilée. La société est valorisée 100 fois ses revenus. Le seul segment qui gagne réellement de l'argent, c'est Starlink. Les data centers en orbite, c'est prévu pour 2028. Et si les délais sont tenus comme chez Tesla, moi je vous le dis, c'est pas gagné. Et Cathie Wood, fidèle à elle-même, chez ARK Invest, ils ont acheté pour 534 millions de dollars de SpaceX dès le premier jour en vendant des Tesla pour financer l'achat. Donc tout va bien, je vous le dis, tout va très bien. On est dans un monde merveilleux, absolument fantastique, on se croirait à Disneyland. Mais par contre, il y a quand même un truc que personne ne dit assez fort. À mon goût, SpaceX n'a pas le droit d'entrer dans le S&P 500 avant 12 mois après son IPO. C'est la règle et c'est écrit noir sur blanc. Alors comment expliquer que ce titre pèse déjà sur les mouvements du Nasdaq, qui sont déjà dans le flux des ETF momentum, que les grands fonds en aient déjà plein leur portefeuille dès la première semaine? ARK Invest est dedans, iShares était déjà actionnaire via des parts pré-IPO, T. Rowe Price aussi. Cerise sur le gâteau, les options sur SpaceX démarrent aujourd'hui, ce qui va forcer les market makers à acheter mécaniquement pour se couvrir. Et tout ça juste à temps pour que le S&P fasse son rebalancement trimestriel cette semaine. Donc on a pré-IPO pour les institutionnels, Greenshoe exercé à 100%, 83 millions d'actions de plus, 10 milliards de dollars en plus, options qui démarrent le jour même, rebalancement de l'indice la même semaine, entrée dans le Nasdaq dans quelques jours. Vous appelez ça une coïncidence ? Moi, j'appelle ça une mécanique conçue pour créer une demande artificielle qui se nourrit elle-même, qui est auto-alimentée. Et personne ne le dit parce que pour l'instant, tout le monde est dans la fusée. Et quand on est dans la fusée, c'est jamais le bon moment pour demander si le pilote il a vraiment sa licence. Et puisqu'on parle de fusée, parlons quand même des semi-conducteurs très rapidement, parce que là aussi, on a quitté la réalité depuis un moment. Le SOX est au plus haut historique, Micron plus 10,8%, Western Digital plus 16%, Marvell plus 10,4%, et ça, c'est rien qu'hier. Pour ces titres-là, en ce moment, si la variation du jour est sous les 10%, c'est qu'on a une journée de merde. La mémoire pour l'IA, c'est devenu le nouveau pétrole, et comme pour le vrai pétrole, personne ne s'interroge sur le prix tant que la fête continue. AMD a même racheté une boîte qui s'appelle Mext, M-E-X-T, spécialisée dans l'optimisation de mémoire pour faire, je cite, « se comporter la flash memory comme de la DRAM ». La demande est tellement folle qu'on cherche maintenant à tripler la capacité du matériel existant avant même de réussir à produire assez de matériel neuf. Alors, on va récapituler. Un accord de paix qui n'existe pas sur papier, qui fait grimper les marchés à des records et dont on connaîtra le contenu après la signature le week-end prochain. Les gens qui possèdent les bateaux disent de ne pas aller dans le détroit d'Hormuz. Le marché y va quand même. Une fusée qui perd de l'argent, qui vaut plus ou pratiquement la valeur d'Amazon et viole presque toutes les règles des indices sans que personne ne s'en émeuve. Et la banque centrale qui pourrait vraiment gâcher la fête aujourd'hui, la BOJ bien sûr, parce que tout le monde l'a oublié. Vous voulez savoir le plus inquiétant dans tout ça ? C'est pas que le marché se trompe, Les marchés se trompent tout le temps, c'est leur métier. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il ait choisi collectivement d'arrêter de poser des questions. Vendredi, l'accord sera signé, ou pas, ou à moitié, avec des péages, ou sans, selon à qui vous demandez. Mercredi, Kevin Warsh parlera pour la première fois en tant que patron de la Fed. Jeudi, on aura le triple witching, quand toutes les options expireront en même temps. Une semaine courte, bourrée d'explosifs potentiels, et un marché qui a décidé de la commencer en mode euphorie totale. Oui, parce que vendredi, en plus, c'est fermé aux States. On a droit à un jour férié pour venir signer leur paix bricolée directement à Genève. Passez une très belle journée et n'oubliez pas, demain, il y a Trading Day à Lausanne, donc j'espère bien vous y voir. D'ici là, on s'abonne, on like, on partage et on commente. Allez, à demain. Bonne journée.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.